Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Chaque mois, la coalition désormais bien connue sous le hashtag Sauver le présent rassemble France Culture, Le Parisien, Combini et la revue ouzbek Erika. Et tous ensemble, nous investissons un grand sujet environnemental, un rendez-vous mensuel qui nous permet d'offrir un tour d'horizon complet avec des enquêtes et des sujets approfondis sur un thème commun. Ce mois-ci, c'est le monde du numérique qui fait l'objet de notre grand dossier et dans cette offre, nous avons choisi de nous intéresser aux ondes électromagnétiques pour le meilleur ou pour le pire. Point d'interrogation, on va répondre à la question ou tenter de le faire. Un sujet en tout cas qui a rythmé encore l'actualité ces dernières semaines et qui provoque interrogations et suspicions de la part des citoyens. De la 5G au compteur Linky, état des lieux, des études scientifiques et médicales relatives aux ondes électromagnétiques, des rapports officiels au moratoire réclamés par les associations. Doit-on avoir peur de ces ondes ou la psychose prend-elle le pas sur la rationalité scientifique? L'électro-hypersensibilité qui semble affecter non seulement les humains mais aussi les espèces animales doit-elle ouvrir le débat? Avec nous pour en parler, trois invités. Maître Arnaud Durand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, donc défenseur de victimes des ondes. Docteur René Decèze, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche et médecin spécialiste des effets des champs électromagnétiques à l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques. Et avec nous, en duplex de nos studios de France Bleu Bordeaux-Gironde, Annie Sasco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin épidémiologiste, vous avez travaillé au Centre international de recherche sur le cancer à Lyon, où vous avez dirigé pendant 9 ans l'unité de recherche CIRC d'épidémiologie pour la prévention du cancer, puis vous avez dirigé aussi pendant 2 ans le programme OMS de contrôle du cancer. En seconde partie d'émission, dans l'œil du monde planète, c'est le journaliste Stéphane Foucard qui nous parlera d'une étude publiée dans Nature sur l'effondrement des arthropodes. Et enfin, l'escale verte nous emmènera au cœur de l'océan en compagnie de Catherine Vadon, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Elle est docteure en océanographie, une adepte de la plongée sous-marine et des missions d'inventaire des faunes profondes. Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'environnement sur France Culture, préparé toujours par Anaï Morales avec la petite équipe qui nous entoure, Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisé par Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui Élise Le.
On a beaucoup parlé ces derniers mois de deux élevages situés à Nozay, à 30 km de Nantes. À partir de 2012, Didier Potiron, l'un des deux éleveurs concernés, a constaté la mort de plus de 300 vaches après l'installation d'un parc éolien et de lignes à moyenne tension à proximité de ces bâtiments.
Jusque-là, tout allait bien. Ça, c'est compliqué à suivre. En octobre 2012, les fondations faites, creusées. Il y a eu un stress permanent des vaches, baisse de production. Et puis en parallèle, une baisse sur la qualité du lait. Des animaux qu'on retrouvait morts dans les bâtiments, sans raison, entre 50 et 60 par an.
Peu à peu, Didier Potiron suspecte les câbles électriques d'être responsables de ces désordres. Mais sur la vingtaine d'analyses effectuées dans son élevage, aucune n'a pu établir un lien entre le courant fourni par les éoliennes et le comportement de ces vaches. C'est ce que nous explique Claude Allot, le président du groupe permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole, une structure qui dépend du ministère de l'Agriculture.
Nous avons multiplié les mesures électriques et nous n'avons pas trouvé de tension électrique qui était susceptible d'expliquer ces problèmes-là. On a fait des mesures d'infrasons qui n'ont rien donné. Nous avons recherché des traceurs chimiques, biochimiques, pour savoir si la composition de l'eau avait été modifiée. On n'a strictement rien trouvé. Et pourtant, il y a des faits qui sont indiscutables.
C'était un reportage diffusé le 1er novembre dernier sur France Info, l'affaire des vaches de Loire-Atlantique. Reportage de Laetitia Chérel, de la cellule investigation de Radio France. Arnaud Durand, concrètement aujourd'hui, combien de procédures et avec combien de victoires, combien de défaites sur ces terrains-là?
Sur les champs électromagnétiques, il y a un contentieux qui est extrêmement grandissant puisqu'on a des victimes, alors à la fois effectivement des animaux et des personnes humaines qui subissent le même sort en présence d'un champ magnétique. Et on a entendu, là, dans le reportage qui vient de passer, des personnes qui cherchent et qui trouvent pas, précision faite, qui ne trouvent pas de différence par rapport aux normes électriques sur un éventuel dépassement. Mais il y a un élément à préciser, c'est que dans cette affaire-là, on a eu une panne d'éolienne pendant 4 jours. et pendant 4 jours, le robot de traite en question a enregistré un retour du lait, une meilleure santé des animaux, etc., etc. Et donc c'est un petit peu toujours pareil, le même débat, et on a deux scientifiques qui vont pouvoir peut-être nous aider à avancer sur cette question dans l'émission. C'est qu'il y a des incertitudes qui sont fortes, avec des positions très marquées d'un côté et de l'autre, et en même temps une obligation de protéger, de prévenir un certain nombre de risques. Et c'est dans ce cadre-là qu'on saisit effectivement un certain nombre de juridictions. On perdait tout le temps au début pour les électro-hypersensibles. Aujourd'hui, on gagne une fois sur deux pour les personnes qui ne peuvent plus habiter chez elles parce que on leur rajoute des ondes à demeure. C'est ça qui est important dans l'affaire Linky, c'est que c'est quelque chose de subi et qui est ajouté dans la maison, dans l'appartement, dans le logement. Et ces personnes-là demandent la protection de la justice et l'obtiennent de plus en plus.
Ces ondes électromagnétiques, René de Sèze, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit, comme le nom l'indique, d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui varie de façon régulière dans le temps, un certain nombre de fois par seconde. Et la fréquence de cette variation s'exprime en hertz, mégahertz, gigahertz. On entend ces termes de temps en temps. Donc c'est le nombre de fois que le champ varie par seconde. Et il se propage dans l'espace assez loin, mais il décroît rapidement en fonction de la distance. Donc il est plus important près des sources. Et plus on s'éloigne, plus le champ décroît.
On en retrouve partout autour de nous. Quels sont les appareils vraiment au contact desquels nous sommes et qui diffusent ces ondes-là ?
Les champs électromagnétiques, il y en a un petit peu partout. Hein. Les ondes électromagnétiques ont été formalisées depuis la fin du 19e siècle et ça a fait l'objet de la télé, de la radio. Au début, la diffusion radio, ensuite la télé. Et puis ensuite, il y a eu l'électrification qui a permis d'avoir l'éclairage, le courant, l'électricité dans les habitations. C'est à des fréquences différentes. Il y a des fréquences pour les radiocommunications et la téléphonie mobile, etc., qui sont plutôt dans l'ordre du mégahertz, gigahertz, et des fréquences pour le circuit électrique qui sont de l'ordre de 50 Hz. Le champ varie 50 fois par seconde à peu près.
Il y a les basses fréquences, les hyperfréquences, et tout ça se retrouve effectivement dans le quotidien. On parle des plaques à induction, des fours à micro-ondes, bien sûr les ordinateurs, les téléphones portables. Enfin, c'est tout un environnement qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes au contact d'un cocktail, on peut dire, d'ondes.
Sachant qu'on a toujours été dans un champ magnétique, on est dans le champ magnétique terrestre, il y a aussi un champ électrique terrestre, parce qu'il y a des ions dans l'atmosphère qui font qu'on est soumis à un champ électrique, qui varie aussi en fonction des périodes de beau temps, d'orage. Dès qu'il y a un temps orageux, on dit qu'on se sent à fleur de peau, on dit qu'on a les poils qui se hérissent, etc. Parce qu'il y a un champ électrique qui est beaucoup plus important par temps d'orage que par temps clair. Donc on a toujours été soumis à un champ électrique, mais pas dans le domaine des radiofréquences. À l'opposé du spectre, on a le champ, les UV, hein, le rayonnement solaire, les infrarouges. Il y a des infrarouges aussi dans notre environnement. Tout corps porté à une certaine température émet un rayonnement infrarouge. Et on le sait bien puisqu'on utilise des caméras infrarouges pour détecter le rayonnement des personnes ou des indésirables qui se trouvent à un endroit donné. Donc, des rayonnements électromagnétiques, il y en a entre guillemets, toujours eu, mais la composition dans les fréquences et dans les intensités varie avec le temps.
Annie Sasco, ces ondes-là, elles ont fait l'objet de classements. Ces champs électromagnétiques, CEM, en cancérogène possible ou en cancérogène probable par le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, et même en mai 2015, il y a eu un appel, hein, je crois, sur l'exposition aux champs électromagnétiques, lancé par 190 scientifiques de 39 pays, aux membres des Nations Unies de l'OMS, et demandant à promouvoir des mesures de protection. Donc c'est quand même un risque que l'on essaye de renseigner, un danger potentiel qui inquiète depuis quand même pas mal d'années.
Oui, donc je voudrais d'abord rebondir ce qui vient d'être dit par le docteur de Sèze. Les champs électromagnétiques et les champs électriques, effectivement, ont toujours existé. Il s'agit de phénomènes naturels. Mais par contre, quand même, avec la fabrication, en quelque sorte, industrielle de champs électromagnétiques dans des buts nouveaux comme les télécommunications, après même les voitures autonomes, etc., on rentre dans des champs de fréquences en particulier qui, elles, n'existaient jamais dans la nature, qui sont des millions de fois plus élevés que ce qui peut exister dans la nature. Donc, de dire que les champs électromagnétiques sont un phénomène naturel, c'est vrai, mais il faut quand même faire une distinction sur les ondes. Et comme l'a très bien dit le docteur de Sèze, il y a un spectre absolument considérable des fréquences, donc des longueurs d'onde aussi, qui peuvent être utilisées pour des buts différents. Et donc, ce que l'on sait quand même maintenant, à l'heure actuelle, en 2019, c'est essentiellement pour le domaine du cancer, qui est le domaine auquel j'ai consacré toute ma carrière, on a des données sur les résultats à long terme de l'exposition aux fréquences, notamment de la téléphonie mobile, avec des téléphones de deuxième ou de troisième génération.
Alors d'où justement, je vous interromps Annie Sasco, parce que je vous propose d'écouter ce reportage qui a été diffusé sur France 3 le 22 octobre dernier. Et on pourra y entendre d'ailleurs l'interview d'Olivier Merkel de l'ANSES. C'était cette recommandation diffusée tout récemment suite à une étude qui montre les risques inhérents aux vieux portables.
C'est le prolongement de nos oreilles, de nos mains. Notre lien permanent au monde, il fait partie de nous. Il ne nous quitte jamais, toujours à portée de la main.
Je le garde tout le temps dans ma poche gauche, du coup. C'est là où j'y ai accès le plus facilement.
Je le mets à chaque fois dans ma poche, je ne fais pas forcément attention là où je le pose.
On le garde près du corps, tout près, trop près, car nos téléphones émettent des ondes. C'est le DAS, le débit d'absorption spécifique, qui indique cette quantité d'énergie absorbée. En France, ce DAS ne doit pas être supérieur à 2 watts par kilo. Problème, de nombreux téléphones fabriqués avant 2016 dépassent les nouvelles normes, d'où la mise en garde des autorités sanitaires.
La recommandation la plus simple à mettre en œuvre, c'est tout simplement d'éloigner le téléphone du corps. On sait que lorsqu'on l'éloigne de quelques centimètres, ça suffit pour diminuer très rapidement l'exposition.
Les autorités de santé demandent aux fabricants d'effectuer des mises à jour régulièrement pour rester en deçà du seuil autorisé. Déjà, des modèles de portables ont été retirés du marché.
René de Sèze, et ensuite on reviendra vers Annie Sasco, bien évidemment. René de Sèze, est-ce que cette alerte, cette recommandation de l'ANSES toute récente, interpelle, remet en question ou appelle peut-être de la part de votre corps scientifique des nouvelles études?
Non, en l'occurrence, ce qui a changé, c'est les normes et la façon de calculer le DAS. C'est-à-dire qu'avant, le DAS pouvait être calculé à une distance de 2 cm, 2 cm et demi du corps. Maintenant, on définit que le DAS doit être calculé au contact du corps, ce qui est raisonnable. Et ce qui correspond à ce que l'ICNIRP avait préconisé, parce que l'ICNIRP avait préconisé un DAS de 2 watts par kilo dans les premiers centimètres de peau du corps, donc sur la périphérie de l'organisme. Donc ça correspond tout à fait. Ce qui a fait l'objet d'une déviation, c'est que la façon dont ont été conçues les normes ont été conçues avec un usage à l'oreille, avec un certain espace entre le téléphone et le cerveau, et qu'à partir du moment où les nouveaux usages font que c'est au contact du corps, la définition du DAS s'adapte à ces nouveaux usages et fait qu'il ne faut pas dépasser 2 watts par kilo au contact du corps. Et c'est vers cette normalisation qu'il faut tendre.
Annie Sasco, je reviens vers vous.
Oui. Pour moi, ce qui me concerne, je suis très heureuse que l'ANSES reprenne les recommandations que finalement un certain nombre d'entre nous faisaient depuis déjà plus de 10 ans. Avec David Serron-Schreiber, nous avions lancé un appel en 2008 en appelant les personnes à utiliser parcimonieusement leur téléphone portable, à l'utiliser en mode haut-parleur, envoyer des messages plutôt que parler, ne pas le laisser être utilisé par les enfants, parce que il était évident que mettre une source de champ électromagnétique tellement près de notre corps pouvait avoir un effet sur le vivant, qu'il s'agisse d'ailleurs des cellules humaines, animales, végétales. Un champ électromagnétique n'est pas une exposition neutre, ni dans des fréquences qui sont naturelles. Donc, il était logique, déjà à l'époque, de recommander des précautions. Et quelque part, je trouve triste qu'il ait fallu attendre des années et des années pour que finalement les institutions officielles reprennent le même discours. Et est-ce que ça doit être 2 watts par kilo? Est-ce que ça doit être moins? En tant qu'épidémiologiste, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que avec les téléphones que nous avions, on observe pour ceux qui étaient définis à l'époque comme de gros utilisateurs, et je rappellerai qu'à la fin des années 90, on considérait comme l'utilisateur régulier toute personne donnant au moins un coup de fil par semaine pendant au moins 6 mois, donc on n'est plus dans ce genre de valeur, ces personnes-là, en pourparlers de la téléphonie mobile, ont un risque accru de tumeur du cerveau pour ceux qui téléphonaient le plus, une demi-heure par jour, depuis le plus grand nombre d'années. Ça a été trouvé dans différentes études et c'est ce qui a abouti à la classification par le Centre international de recherche sur le cancer, à ce que les radiofréquences champs électromagnétiques soient classées comme des cancérogènes possibles, la catégorie 2B. En 2011. Depuis, nous avons davantage de données. Ça a été confirmé chez l'adulte par l'étude Serenat, une étude française qui trouve le même type de résultats. Et ce qui me choque le plus, c'est que nous avons également des études chez l'enfant, une étude qui a été publiée, Céphalo, qui évidemment est sortie une semaine après la réunion des monographies, donc n'avait pas été prise en compte, qui est présentée comme une étude négative, parce que dans le jargon épidémiologique, beaucoup de résultats ne sont pas statistiquement significatifs, mais où néanmoins l'immense majorité des mesures de risque relatif rapportées sont supérieures à 1, donc indiquent un risque augmenté. Et puis maintenant, il y a une autre étude qui a été réalisée dans 13 pays, MobiKids, qui est terminée depuis fin 2015, pour laquelle un rapport final a été envoyé à la Commission européenne qui l'a financé, 20 millions d'euros quand même, d'argent public, donc c'est nous tous finalement qui avons payé pour cette étude, où il y a tout sauf les résultats, et où il est écrit, comme il se doit, que bien sûr, une publication scientifique est en préparation et qu'avant, ils ne veulent rien dire. Mais depuis le 13 janvier 2017, ça fait 3 ans, bientôt, qu'on attend ces résultats.
Alors, Annie Sasco,
je trouve inacceptable qu'on ne les ait pas.
Je me tourne vers René de Sèze. René de Sèze, c'est vrai que dans ces questions-là, dans ces histoires, on sent, hein, je disais au début de l'émission, qu'il y a des craintes, des suspicions, parce qu'il n'y a pas forcément des réponses cohérentes aussi pour le grand public. C'est-à-dire, d'un côté, ils entendent des résultats, et puis de l'autre côté, il y a d'autres études qui sortent. Est-ce que on peut expliquer l'état des lieux aussi de ce qu'on pourrait appeler des controverses scientifiques? Est-ce qu'il y a quelques années, on n'avait pas suffisamment de données? Est-ce qu'aujourd'hui, on commence à avoir de nouvelles données? Est-ce qu'il faut, comme le fait l'ANSES, qui est en train de mener de nouvelles études, est-ce qu'il faut multiplier les études indépendante et faire en sorte d'y voir peut-être un peu plus clair, tout simplement.
Les controverses sont liées à une interprétation différente des études, c'est-à-dire que des études peuvent donner des résultats et être interprétées comme un signe de danger grave ou un signe banal. Ça dépend des niveaux d'exposition, ça dépend des modèles, ça dépend des paramètres qu'on regarde. Donc il y a de multiples paramètres qui font que l'étude peut être interprétée comme un facteur de risque ou pas un facteur de risque. C'est pour ça que l'ensemble des études est considéré par des groupes d'experts qui se consultent entre eux, qui essayent de bien évaluer la situation et de voir, ok, on a vu ce résultat, mais est-ce que c'est un niveau pertinent par rapport à l'exposition humaine ou à des niveaux beaucoup plus importants. Par exemple, l'étude NTP qui a fait beaucoup de bruit du National Toxicological Program, qui a porté sur des milliers d'animaux, a conclu à une augmentation de l'incidence d'un cancer du cœur chez les rats. Dans cette étude, les rats étaient exposés corps entier dans leur ensemble à des niveaux qui sont 40 à 75 fois les valeurs maximum d'exposition humaine pour une exposition quarantaine.
Et d'un autre côté, d'autres études menées sur des rats, notamment les études de Gérard Ledoit à l'université de Clermont-Ferrand ou d'Amandine Pelletier, maître de conférence à l'université d'Amiens, montrent d'autres choses. C'est vrai qu'on sent, il faut quand même avouer, ça perd tout le monde finalement. Il y a des études qui disent blanc et d'autres qui disent noir et que malgré tout, il y a ces pathologies, il y a ces questions et en médecine, 2 et 2 ne font pas 4. Et que quelqu'un qui va développer un cancer, une pathologie, une autre personne exposée au même rayon ne va rien développer. On sait que le corps humain ne réagit pas de la même façon.
Et c'est pour ça qu'on parle d'effets avérés ou d'effets non avérés. Moi, j'ai participé à l'étude d'Amandine Pelletier. On a vu des effets à des niveaux faibles qui montrent que les rats réagissent comme s'ils avaient froid. Et c'est des effets physiologiques qu'on peut documenter, argumenter. Tant que cette étude n'a pas été répliquée dans d'autres laboratoires par d'autres équipes, ce n'est pas un effet avéré. On a pourtant 2-3 articles et on continue à travailler dessus, mais ce n'est pas un effet avéré. Et pour les études épidémiologiques, les études qui ont mené à la classification cancérogène possible disaient qu'il y a une augmentation du risque de 40%. Si ce risque était réel, avec 10 ou 20 ans de recul aujourd'hui, on devrait voir une augmentation de l'incidence des cancers du cerveau qui devrait passer de 5 pour 100 000 à 7 pour 100 000. Or, on ne le constate pas. Alors, est-ce qu'il faut 20 ans ou 30 ans pour que ça se manifeste, ou est-ce qu'il faut 150 ans? S'il faut 150 ans, je ne suis pas très inquiet. Si on voit apparaître dans 20 ans une augmentation importante des cancers, je serais assez inquiet. Mais pour revenir à ce que disait Anicesco sur les conseils de limitation de l'exposition, l'ANSES, et initialement l'ACET, a toujours préconisé ça. Depuis le début, depuis 2003, dans tous ses rapports, ils disent « limitez votre exposition, utilisez des kits main libres, ne téléphonez pas dans de mauvaises conditions ». Ça a toujours été dit.
Arnaud Durand, quand vous défendez des personnes qui développent donc des pathologies, alors vous allez peut-être pouvoir nous en parler un peu plus longuement, c'est-à-dire que on parle de ces personnes qui sont électro-hypersensibles, c'est ça? Et donc il n'y a pas que les cancers, il y a d'autres symptômes aussi qui nuisent à la vie au quotidien et même à la vie sociale.
Comme tout agent physique, on sait aujourd'hui que les champs électromagnétiques ont des effets très divers. Comme un médicament, il y a des effets secondaires qui varient d'une personne à l'autre. Moi, je suis pas scientifique, je suis pas amené à pouvoir trancher ce débat. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il faut raisonner à plusieurs niveaux d'évaluation et de prise en compte des conflits d'intérêts. On sait, notre interlocuteur ici présent, René de Sèze, est là pour en témoigner, que un certain nombre d'experts comme M. de Sèze, ont pu percevoir des rémunérations d'un certain nombre d'opérateurs.
C'est faux.
Ou faire partie de représentations de l'industrie, les CNIRP, etc., dont il a cité tout à l'heure les travaux. On a donc des incertitudes qui peuvent durer, on l'a dit, 150 ans. Et c'est le mécanisme qu'on observe à chaque évaluation. C'est, on a vu plein de choses, mais je doute encore un petit peu, prolongeons les études. Et contrairement à ce qu'a dit mon interlocuteur, on n'applique pas les recommandations de réduction de l'exposition. Vous avez cité, sans la nommer, la résolution 1815-2011 du Conseil de l'Europe, qui nous dit qu'on sait aujourd'hui qu'il existe des effets qui sont peut-être mal évalués, mais il existe des effets en dessous des seuils de protection réglementaire. Celles que mon interlocuteur défend sont les plus élevées au monde. Et on a, en France, un principe de précaution. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on présente aux magistrats face à une industrie qu'on appelle le créateur du doute. Il n'y aura jamais de consensus sur les champs électromagnétiques. C'est pour ça qu'il faut apporter deux niveaux. Vous devez d'abord appliquer le principe de précaution, et c'est ce qu'on obtient de plus en plus devant les juridictions. Ce sont des mesures de protection face à des augmentations d'exposition qui sont cautionnées par l'ICNIRP et autres instituts de lobbying, très clairement, sur les questions des champs électromagnétiques. Et c'est également la protection au travail qui est très importante. Parce que si vous voulez, on passe, je reviens sur le terrain avocat, on passe d'un mécanisme qui ne pourra pas fonctionner, qui est de préjudice subi et réparation. Il y a beaucoup trop d'augmentation des champs électromagnétiques, il y en a partout, pour pouvoir tout indemniser. Ce qu'il faut, donc c'est appliquer des mécanismes préventifs.
L'effet cocktail, en fait, dont on parlait, c'est-à-dire que parfois on focalise sur la téléphonie, on focalise sur le Linky, on focalise sur... Mais finalement, c'est peut-être aussi de cet effet cocktail qu'il faut renseigner pour pouvoir adapter ou un principe de précaution ou suffisamment de précaution pour préserver la santé.
Il y a d'une part l'effet cocktail et d'autre part des focus qui sont faits sur certaines fréquences. Alors le discours de « on a toujours eu beaucoup d'ondes », etc., c'est le même que dans l'amiante, il est à mon sens pas recevable en justice. Il faut regarder si qu'est-ce qu'on a comme effet sur les bandes de fréquence. Et on sait par exemple, et là je cite l'ANSES, qui peut pas être taxé de quelque conflit d'intérêt que ce soit par mon interlocuteur, on sait que l'ANSES reconnaît sur les fréquences qui sont ajoutées par le Linky dans les foyers, je cite, « des incertitudes sur les effets sanitaires pour les fréquences déployées par Linky ». Et donc c'est pour cette raison qu'on demande et qu'on obtient de plus en plus. C'est pas facile, c'est très difficile de se battre contre des acteurs comme ceux qu'on a en face, mais on obtient de plus en plus l'application du principe de précaution et la prévention d'un dommage imminent.
Donc l'électro-hypersensibilité, 5% des personnes en souffrent, en sachant que c'est une pathologie pour laquelle les médecins ou généralistes ne sont pas forcément non plus formés pour pouvoir l'identifier. En tout cas, aujourd'hui, on en est à 5%. C'est une maladie reconnue?
C'est une maladie dont les conséquences sont reconnues par l'ANSES, et dont le lien de causalité est de moins en moins discuté. Il est encore discuté. Il y a, en 2009, on nous disait qu'il n'y avait pas de lien de causalité. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas suffisamment d'études, à la fois expérimentales, à la fois suffisamment solides. Donc vous voyez comment l'industrie rajoute des conditions pour dire qu'on n'est pas encore sûr, sur l'exposition, ce lien entre l'exposition et ses conséquences. C'est ça aujourd'hui dont il faut se prémunir, parce qu'on sait que le coût social va être immense. 5% de la population en France,
pour l'instant, oui.
Ça fait 3 millions de personnes, et que si effectivement effectivement, ces 3 millions de personnes souffrent des champs électromagnétiques, on n'a pas pris de mesures de protection, on va avoir un coût social monstrueux.
Et parmi les personnes touchées, donc 2 sur 3 seraient des femmes et de plus en plus d'enfants, c'est ce qui ressort des dernières études. Anis Asko, je crois que vous vouliez réagir, ensuite j'irai bien sûr recueillir la parole de René Decèze.
C'est vrai que 100% des scientifiques ne sont pas d'accord, mais heureusement que Maître Arnaud a soulevé la question des conflits d'intérêts. Parce que les études qui ont été financées par la téléphonie mobile, en général, tendent à ne pas trouver d'effet. Parce que si elles en trouvent, sans doute, ils ne les publieraient pas. Donc, ce qu'il nous faudra encore, et je suis très inquiète pour le futur, ce sont des vraies études indépendantes. Si vous regardez les résultats des études épidémiologiques, je recommande aux étudiants de regarder les chiffres qui sont dans les tableaux, de ne pas lire le résumé qui souvent ne reflète pas les principaux résultats de l'étude et de voir comment, quand on trouve un risque, on essaye de le diluer pour qu'il n'existe pas. Et je reviens sur cette étude MobiKiss que l'on attend depuis 3 ans. S'il n'y a pas de risque de tumeur du cerveau pour les enfants, c'est une étude entre les âges de 10 ans et 24 ans. Il faut le dire, ça rassurerait tout le monde. Pourquoi depuis 3 ans, on ne sort pas les résultats?
René Decèze, donc il y a 2 points. C'est à la fois, effectivement, vous avez travaillé pour le privé.
Je n'ai jamais travaillé pour le privé. On a eu des études qui ont été financées par des opérateurs à une époque où il n'y avait pas de crédit gouvernemental pour faire ce type d'études.
Donc les opérateurs finançaient les études.
Mon premier intérêt dans les effets des champs électromagnétiques, ça a été pour chercher des effets thérapeutiques. Donc je suis très très motivé pour trouver des effets et des mécanismes d'interaction, en particulier sur les résultats du professeur Potrizel qui avait trouvé qu'on pouvait guérir des souris de la trypanosomiase avec des combinaisons de champs micro-ondes et radiofréquences. Donc c'était ma première motivation. Ensuite, je suis radiologue, j'ai pas besoin d'avoir des financements de la part des opérateurs pour gagner ma vie. Si je voulais gagner ma vie, je ferais mieux d'être dans un cabinet de radiologie plutôt que dans un institut public du ministère de l'Environnement. On a toujours eu des résultats, ils ont toujours été publiés. Dès les premières études, en 99, on publiait une étude dans laquelle on trouvait un effet sur les hormones hypophysaires et on l'a publié et c'était financé par les opérateurs. On a exposé les animaux pendant des semaines, des mois, 6 mois. On n'a jamais vu d'impact sur la fonction cognitive. Je veux dire, à force de manipuler et puis de voir des petites choses qui bougent. Oui, on est content quand on voit quelque chose qui bouge, on fait une publication. Statistiquement, c'est significatif et on est content d'avoir un effet statistique. Mais je veux dire, c'est désespérant pour un chercheur de ne pas avoir de résultats.
On sait qu'aujourd'hui, l'ANSES quand même multiplie les études et que lui-même, Olivier Merkel, demande à ce qu'il y ait de nouvelles études qui soient engagées pour y voir clair. Arnaud Durand.
On sait aujourd'hui que quand on est exposé à un champ électromagnétique, il y a un effet d'induction qui fait circuler du courant dans le corps. Si ces circulations de courant électrique, entre autres effets, provoquent effectivement, à un certain terme et à une certaine dose d'exposition, pas seulement l'intensité instantanée pendant 20 minutes comme Nick Knirp le suggère, mais le cumul d'une grande exposition dans un effet cocktail au bout d'un certain temps, d'effets sanitaires. Et c'est là où effectivement on a la fabrique du doute, mais la fabrique des incertitudes. Sauf que c'est là aussi où juridiquement je rebondis, c'est que ce sont des incertitudes qui en droit ont une consistance. C'est l'article 5 de la Charte de l'environnement de 2004 qui nous dit qu'effectivement, on peut faire sanctionner par les autorités sanitaires, mais si elles le font pas, en conséquent par le juge, des effets, même incertains, en l'état des connaissances scientifiques. Et c'est ça aujourd'hui vers quoi on est obligé d'aller. Parce que la fabrique du doute, elle sera toujours là. Et c'est pour ça que le seul moyen de s'en sortir, par rapport au nombre de victimes qui est de 5%, par rapport, encore une fois, à ce coût social qui risque d'être extrêmement important, c'est la protection.
Anis Asko, une petite réaction, et puis vous nous ferez partager quand même votre choix musical avant de continuer la discussion. Allez-y.
Non, la seule réaction, c'est que je redis toujours la même chose. Je veux voir les résultats de MobiKiss. La collecte des données a été terminée fin 2015. Nous allons être quand même en 2019. Je sais bien que ça peut être long, mais au moins pour Interphone, où là aussi on avait attendu des années, les différents pays avaient eu le droit de publier leurs données propres et on voyait déjà que c'était seulement les personnes les plus exposées qui couraient un risque. Je ne voudrais pas que MobiKiss sorte juste après le déroulement de la 5G.
Alors, votre choix musical, Anis Asko, Rolling Stones, il y a une raison pour
oui,
ce
choix
spécifique.
Oui, mon choix musical, c'est les Rolling Stones, « I can get no satisfaction ». qui est une chanson qui reflète une frustration extrême, et c'est le reflet de ma frustration face à la difficulté que l'on éprouve pour obtenir des résultats d'études épidémiologiques qui ont été conduites et pour qu'ensuite ces résultats-là soient transformés en politique de santé des populations.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Nous sommes rassemblés ensemble pour traiter de ce sujet des ondes électromagnétiques pour le meilleur ou pour le pire, le sujet qui nous intéresse et que nous investissons aujourd'hui sur France Culture dans le cadre, je le rappelle, du dossier sur le numérique proposé avec nos partenaires de la coalition hashtag Sauver le Présent, c'est-à-dire Le Parisien, Ouzbek Erika et Combini, un rendez-vous mensuel qui nous permet d'offrir des enquêtes, aussi des sujets approfondis sur un thème commun de la 5G au comptoir Linky, état des lieux aujourd'hui et regard sur ces ondes électromagnétiques qui génèrent des infos divergentes. Avec nous, je le rappelle, maître Arnaud Durand, avocat au barreau de Paris, défenseur des victimes des ondes, docteur René Decèze, directeur de recherche et médecin spécialiste des effets des champs électromagnétiques à l'INERIS, à l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, et Annie Sasko, en duplex de nos studios de France Bleu Bordeaux Gironde, médecin épidémiologiste et spécialiste de la prévention du cancer.
À 72 ans, ce retraité qui souffre d'électrosensibilité est enfin satisfait. Le tribunal de Tours vient d'imposer à la société Enedis de ne pas installer chez lui un compteur Linky.
Ça me soulage de cette partie des pollutions des champs électromagnétiques.
Le compteur Linky transmet en temps réel la consommation d'électricité grâce à des champs électromagnétiques. Les personnes électrosensibles comme lui disent ressentir immédiatement des symptômes lorsqu'elles sont exposées à ces ondes.
Vous vous sentez fatigué sans savoir pourquoi. Vous avez une chape sur la tête. Et dans les zones de pollution, c'est toujours pareil. Si j'y vais en forêt, je n'ai pas ces problématiques-là.
L'installation de ces nouveaux compteurs est imposée par la loi. Unique recours pour les personnes électrosensibles qui les refusent, la justice. Et mardi dernier, le tribunal de Tours a donné raison à 13 plaignants. Leur sensibilité a été reconnue par les juges, qui justifient le retrait des compteurs.
Il est démontré l'existence d'un dommage imminent et d'un lien de causalité directe entre la pose du compteur Linky et les pathologies présentées.
Pour l'avocat des plaignants, c'est une reconnaissance du principe de précaution.
Cette décision est importante parce qu'aujourd'hui, c'est la quatrième à condamner la société Enedis sur le volet de la santé. Et donc, ça consacre une véritable jurisprudence qui permet aux électro-hypersensibles d'avoir de bonnes chances, en cas de saisine d'un juge, d'avoir gain de cause contre Enedis.
Arnaud Durand, principe de précaution, quelles sont les solutions? Voilà, enfin, concrètement, votre regard, où vous en êtes, vous qui êtes aux côtés des victimes hein, et que vous plaidez donc devant ces tribunaux.
Il y a deux aspects. Un premier qu'on a développé, qui est la question des incertitudes sanitaires, qui sont consacrées, et sur Linky, pour le coup, reconnues par l'ANSES elle-même, qui est une agence sous tutelle gouvernementale. Et on a aussi, et là ça montre, si on peut un peu comprendre que les adversaires reculent sur ces dossiers, il faut pouvoir le mettre en lumière. Et on a deux terrains, on l'a vu sur le terrain scientifique, l'industrie des champs électromagnétiques recule, mais on sait aussi qu'il y a un autre aspect sur lequel ils jouent, c'est la mesure des intensités d'exposition. Et mon interlocuteur, qui est de l'INERIS, par exemple, a rendu une étude sur Linky, que les auditeurs pourront trouver dans le rapport de juin 2017 de l'ANSES, l'avis révisé sur le Linky, dans les annexes, qui dit « Je n'ai même pas réussi à mesurer sur Linky d'onde ». Il s'avère que l'INERIS s'est trompé le jour de l'évaluation, et au lieu de brancher, c'est très technique, mais je ne vais pas le détailler plus que ça, au lieu de brancher une charge capacitive, a branché une charge résistive, et du coup le Linky n'émettait plus rien.
N'importe
et donc
quoi.
L'INERIS a mesuré une exposition insignifiante au Linky. Et aujourd'hui, finalement, et le CSTB a fait pareil ensuite, et on a eu, il y a deux semaines, les résultats d'un rapport de l'ANFR qui montre 170 fois plus fort que ce que l'INERIS et l'ANSES, via le CSTB, avaient mesuré. Et donc, si vous voulez, ces signes-là montrent que les adversaires reculent parce qu'ils se battent désormais aussi aujourd'hui, non pas simplement sur la défense des seuils réglementaires les plus élevés au monde, mais sur le fait qu'on serait des milliers de fois en dessous, ce qui n'est pas le cas avec le Linky. On sait, par exemple, qu'on est autour des seuils thermiques, peut-être seulement quelques dizaines de fois en dessous.
Donc tout ça, ça a pesé dans les décisions au tribunal, j'imagine.
Ça pèse dans les décisions au tribunal parce que le juge se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche.
René de Sèze, est-ce que malgré tout, en attendant d'autres études, en attendant d'y voir clair concrètement, puisqu'on a bien compris que certaines études mettent du temps aussi à sortir, est-ce qu'il ne faut pas recommander au moins des gestes de précaution pour les citoyens et puis partir sur ces questions de principe de précaution ?
On a toujours préconisé de limiter les expositions. Et pour élargir un petit peu le débat, puisqu'on est dans une émission sur le numérique en général, je ne suis pas non plus pour le développement à tout craint, ni de l'électronique, ni de tout ça, parce que il y a trois grands dangers. Il y a les déchets électroniques que ça génère. Il y a les altérations du comportement, l'addiction, les ruptures sociales, etc. Et puis en plus, il y a ce qu'on appelle le gras numérique et toute cette quantité de données infini, qu'on n'arrête pas de redoubler, de redonder, etc., qui est en énorme redondance et qui est en commande. Donc je ne milite pas pour la téléphonie mobile, pour la 5G, pour ceci, pour cela. Je milite pour qu'on ne rende pas malades les gens pour des causes qui ne sont pas fondées.
Et par contre, est-ce qu'aujourd'hui, docteur René de Sèze, vous dites « il n'y a aucun danger » ou vous dites « on ne sait pas, il faut attendre des études » concrètement?
En 99, j'ai été invité à Arzon pour une conférence municipale et on m'a dit « Est-ce que vous pouvez garantir qu'on n'a pas de risque pour la santé ?» J'ai dû réfléchir un petit peu avant de répondre parce que je ne peux pas m'engager à répondre comme ça, je veux dire, sans y avoir réfléchi un peu. Dans l'avion, j'écrivais un courrier dans lequel je peux m'y engager. Je suis persuadé qu'avant 150 ans, on n'aura pas mis en évidence d'effets graves des champs électromagnétiques à ces niveaux-là. Je veux dire, mon expérience, les expériences que j'ai faites, les mesures biologiques que j'ai faites, les études qu'on a faites chez des personnes saines, chez des personnes électrosensibles, on ne connaît pas tout, on découvrira peut-être des choses, et on en a découvert dans les dernières années, on en a découvert il y a 10 ans, il y en a découvert il y a 20 ans, mais c'est des choses qui sont infimes et qui ne remettent pas en cause les conséquences des effets avérés et les mécanismes par lesquels des champs électromagnétiques pourraient rendre malades.
Annie Sasco ?
Moi, évidemment, je suis en faveur du principe de précaution. Parce que je pense que ne pas prendre de mesures tant que tout n'est pas absolument démontré, ben l'industrie du tabac l'a utilisé, n'importe quelle industrie, l'amiante, c'est toujours la même chose. On dit « oui, je vois quelque chose, mais je peux pas vraiment l'expliquer par un mécanisme particulier » où on va me dire que les rats ne réagissent pas comme les êtres humains. Dans le cas des champs électromagnétiques, on a la chance, entre guillemets, qu'ils fassent le même type de tumeur. Donc pour moi, ça me parle. Bien sûr, on peut toujours attendre. Le problème, c'est que demain, avec la 5G, finalement, on aura du mal à faire des études épidémiologiques parce que tout le monde sera exposé. Tout le monde sera exposé, qu'on le veuille ou non, et même ceux qui choisiraient de ne pas avoir un téléphone, parce qu'il y aura des antennes beaucoup plus rapprochées, etc. Donc moi, ce que je voudrais demander au docteur de Sèze, c'est, je ne sais pas s'il est grand-père, mais si un jour il est grand-père, est-ce qu'il va donner un téléphone mobile à un gamin qui rentre à l'école, même à 5-6 ans, ou non ? S'il ne le fait pas, pourquoi les autres devraient le faire ? Donc, moi, oui, bien sûr, je pense qu'il faut absolument rendre public les résultats qui existent, en tirer des conséquences en termes de réglementation, en parler au public, non pas pour le faire paniquer, ça m'intéresse pas, je veux pas faire peur aux gens, mais je veux que les personnes prennent conscience qu'il se passe un certain nombre de phénomènes, et après, ils peuvent décider ou pas d'être exposés. Mais avec la 5G, on n'aura même pas cette décision à prendre, parce que même le président a dit qu'il ne fallait pas de zones blanches dans toute la France. Donc si tout le monde est exposé, évidemment l'épidémiologie aura du mal à montrer des risques. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existeront pas. Et pour moi, je trouve qu'un avenir où au lieu d'avoir un individu sur trois ou un sur deux qui fait un cancer, on en aura 100%, c'est pas un bel avenir. C'est pas l'avenir que je veux, ni pour mon petit-fils, ni pour aucun des gamins de la planète.
René De Cèze, la question, vous pouvez répondre à la question d'Annie Sasco, et moi je précise que Bill Gates lui-même a expliqué qu'il ne donnait pas de téléphone à ses propres enfants à cause des ondes.
Mais moi, je voulais pas avoir de téléphone portable non plus parce que ça m'intéressait pas. Mais le jour où je me suis retrouvé coincé à l'aéroport pendant 2 heures par une tempête de neige et que ma femme n'a pas eu d'information pendant 3 heures sans savoir si l'avion arrivait et s'il n'arrivait pas, ce jour-là, j'ai pris un téléphone portable.
Et vous mettez les oreillettes ?
Et je mets les oreillettes.
Donc vous avez quand même des principes de précaution pour vous-même ?
Tout à fait.
Quand même.
Je limite l'exposition.
On peut au moins inciter les citoyens à être précautionneux. D'ailleurs, je crois que sur le site de l'ANSES, il y a quand même des gestes aussi, y compris au quotidien.
Après, je n'utilise pas pendant des heures par jour.
Mais dans la maison. Arnaud Durand.
Mettre en lumière une proposition très simple. Mon interlocuteur, le docteur René De Cèze, reconnaît des effets thérapeutiques sur certaines fréquences des champs électromagnétiques. Et je trouve ça assez miraculeux parce que ça veut dire qu'on aurait trouvé un procédé médical, thérapeutique, qui n'a aucun effet secondaire, puisque tous les effets secondaires sont, en revanche, contestés. Et c'est là où, encore une fois, la prévention du dommage qui peut être colossal en termes de nombre de victimes et de potentialité de l'atteinte doit prévaloir et comprendre que des personnes qui reconnaissent que les effets qui ont un avantage industriel doivent être relativisées par rapport à un certain nombre d'études. Je renvoie les auditeurs à faire quelques recherches personnelles là-dessus, à lire différents rapports, bioinitiatives, etc., qui vont pouvoir mettre en lumière l'effet avéré du doute, pour le moins, et donc prendre effectivement toutes les mesures de précaution qui s'imposent et aller au bout de ce que le docteur René De Cèze applique pour lui-même, c'est-à-dire ne pas augmenter l'exposition. Donc ne pas rajouter avec Linky des ondes dans le foyer. Ne pas rajouter des antennes tous les 100 mètres avec la 5G. Ce sont ces éléments-là qui sont importants dans l'attente de faire la lumière. Sinon, c'est toujours le doute qui prévaudra et le temps qui durera pour ne pas savoir.
Merci à tous les trois, Maître Arnaud Durand, René De Cèze, Annie Sasco. Je précise que justement, des livres et des liens seront à votre disposition sur notre site. Et le dossier complet sur le numérique et l'environnement est à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr, à la page de Cause à Effet, et sur les sites de nos partenaires, bien sûr. Et sans plus attendre, eh bien, découvrons qui est l'œil du monde planète aujourd'hui.
France Culture, de Cause à Effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Direction la rédaction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire média, et dans l'actualité qui touche à l'environnement, coup de projecteur sur une info choisie par l'un des journalistes du quotidien. Et aujourd'hui, l'œil du monde Planète n'est autre que Stéphane Foucard. Bonjour.
Bonjour.
Alors Stéphane, votre choix s'est porté sur une étude publiée le 31 octobre dernier dans la célèbre revue scientifique Nature et dont on a finalement peu parlé.
Oui, on a très peu parlé de cette étude, alors qu'elle présente un résultat qui est absolument stupéfiant. C'est une étude, c'est la plus précise et la plus exhaustive du genre qui a été menée. Elle a cherché pendant 10 ans, entre 2008 et 2017, à évaluer l'évolution de la quantité d'arthropodes, hein, plus exactement, donc les insectes, les araignées, les mille-pattes et ce genre de choses, dans les prairies et les forêts allemandes. Donc il y a eu 150 sites de prairies qui ont été sélectionnés, 150 sites forestiers, et à intervalles de temps réguliers, les chercheurs sont venus échantillonner sur ces sites les insectes qu'ils pouvaient retrouver avec des méthodes de capture standardisées. Et le résultat qui en sort est, comme je l'ai dit, vraiment stupéfiant. On a, quelle que soit la métrique considérée, c'est-à-dire que l'on parle de l'abondance des insectes capturés, que l'on parle de la biomasse qu'ils représentent, que l'on parle de la diversité des espèces, un effondrement absolument vertical, d'une rapidité absolument inouïe, qui est bien plus forte que tout ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à présent. Donc en 10 ans, c'est 78% d'individus en moins qui sont capturés dans les prairies. C'est 67% de biomasse d'insectes, d'arthropodes qui sont capturés en moins en 10 ans sur ces mêmes sites, et c'est une chute de 34% de la diversité des espèces qui se sont capturées. Donc c'est un effondrement absolument stupéfiant.
Il faut préciser donc que cette étude a été menée par une vingtaine de chercheurs, donc qui appartiennent à trois pays, hein, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, et entre 2008 et 2017, donc quasiment voilà 10 ans. Le coupable incriminé?
C'est pas une étude qui est designée, qui est conçue pour identifier les causes de ce déclin. C'est essentiellement une étude, pour l'instant, quantitative. Cependant, les chercheurs observent, ce qui n'est pas très étonnant et ce qui confirme des travaux précédents, également conduits en Allemagne, les chercheurs observent que plus les prairies considérées sont insérées dans à l'intérieur de zones agricoles, plus la chute d'abondance et de diversité d'arthropodes est forte. Donc il y a à l'évidence, et c'est encore une fois c'est quelque chose qui est maintenant assez consensuel dans la communauté scientifique compétente, il y a un impact très lourd de l'agriculture intensive et en particulier un impact très fort du recours systématique, préventif et prophylactique à un certain nombre de produits. Et on peut notamment citer les fameux néonicotinoïdes là, qui vont être interdits en France à partir de 2020, qui sont manifestement une des causes majeures à ce déclin.
Et donc bien sûr, par ricochet, c'est la population aussi des oiseaux qui s'effondre, puisque ces oiseaux ne trouvent plus leur nourriture finalement.
Oui, alors il y a les biologistes, les conservationnistes citent toujours une variété de causes au déclin de la faune insectivore, par exemple les chauves-souris, les batraciens, les oiseaux. Il y a toujours une diversité de causes qui est mise en avant, de la circulation de certains pathogènes, la fragmentation des habitats, le drainage des zones humides. Enfin, il y a toute une série comme ça de paramètres qui sont systématiquement mis en avant, mais il y a également évidemment un impact fort du fait que ces oiseaux et toute cette faune insectivore a de moins en moins de quoi se nourrir dans nos campagnes.
Merci Stéphane Foucard. Bien sûr, on va retrouver vos articles et celui de la revue Nature, ainsi que toutes les informations sur ce sujet sur notre site d'émission et sur le site dumonde.fr. Et on y parle aussi des chauves-souris justement françaises, dont 30% ont déjà disparu, des poissons, eux-mêmes victimes des insecticides, tueurs d'abeilles. Et bien justement, les poissons, c'est l'océan qui sera notre sujet dans l'Escale verte. Dans l'Escale verte, chaque semaine, nous partons du côté d'une ville, d'un village, d'un lieu, en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, à la rencontre de territoires, de coins de paradis ou de secteurs en danger, avec des chercheurs, des alerteurs, des acteurs de la transition en cours. Aujourd'hui, direction les mystères et les richesses de l'océan. Bonjour Catherine Vadon.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, docteur en océanographie. Vous avez pris part à diverses expéditions et missions d'inventaire des faunes profondes. Et puis, vous êtes l'auteur d'un très beau livre intitulé « Océan sauvage », un livre paru chez Glénat avec des illustrations de l'agence Biophoto. Vous avez été gâtée quand même, les photos sont superbes.
Les photos sont absolument magnifiques, superbes.
Et donc, vous nous emmenez à travers ce livre dans de multiples lieux de la planète, ici arpenter à la rencontre de cette vie sauvage. Alors avant peut-être de faire un focus sur un ou deux lieux précisément, on peut rappeler que l'océan recouvre les trois quarts de la planète quand même.
Les trois quarts de la planète avec une profondeur moyenne de 3800 mètres, donc ce qui représente un volume absolument considérable. C'est l'habitat le plus important de la planète Terre et il est très peu connu, peu exploré et plein de ressources encore et de magnifiques découvertes en attente.
Alors le fond ultime, c'est quand même 11 kilomètres.
11 kilomètres sous la surface, voilà, on est là dans le Challenger Deep, au fond de la fosse des Mariannes dans le Pacifique, on est à 11 kilomètres sous la surface. Alors si 11 kilomètres sur Terre, c'est vraiment pas grand-chose, c'est, je dirais, une balade en vélo, autant c'est compliqué, coûteux et dangereux aussi d'aller dans le fond des océans jusqu'à 11 kilomètres. Et pourtant, on a bien envie d'y aller parce que on sait que la vie existe encore avec des pressions énormes, une obscurité totale, un froid terrible aussi, une nourriture rare et pourtant la vie existe. Et on envoie des robots et on est en train de, c'est vrai, de multiplier cependant les découvertes et on sait que des crustacés vivent à ces profondeurs, des bactéries, des holothuries.
Et alors, on a découvert, il n'y a pas si longtemps, des sources hydrothermales aussi profondes et qui nous révèlent des écosystèmes inimaginables.
Absolument. Donc là, c'est la fin des années 70. On découvre donc sur la dorsale Est-Pacifique des volcans, en fait, sous-marins. Et autour de ces volcans, dans un univers qui est plutôt hostile par rapport à nos propres besoins, eh bien, dans les fluides hydrothermaux, acides, sulfurés, chauds, etc., on découvre de la vie, une vie qu'on connaissait absolument pas. On connaît maintenant, parce que bon, les prospections se multiplient sur ces sources hydrothermales dans le monde entier. On connaît à peu près 800 espèces, pour la plupart endémiques, et donc les découvertes se succèdent. Et donc ce sont des écosystèmes qui reposent sur en fait l'oxydation des métaux crachés par ces cheminées. Et donc ça a été une découverte totale. Et en fait on s'aperçoit que autour d'émanations de méthane, par exemple, au fond de l'océan, ce qu'on appelle les suintements froids, parce qu'ils sont pas aussi chauds que ces sources hydrothermales, eh bien, la vie existe. Donc, on s'aperçoit que même dans des conditions, vraiment, on n'aurait jamais pensé que la vie puisse exister, eh bien, elle est diverse, variée, et je pense qu'on n'en est qu'au début de nos découvertes.
Alors, quand vous parlez de 800 espèces, il faut quand même préciser que c'est vraiment sur ces écosystèmes-là, parce que les espèces vivantes répertoriées sont estimées à 270 000, mais il y a les grands fonds aussi. Les grands fonds, il y aurait 1 à 2 millions d'espèces.
Voilà, c'est un univers qui nous attend certainement au niveau. La description des espèces est bien loin d'être évidemment achevée. Donc c'est à peu près voilà 275-300 000 espèces pour l'instant qui sont connues. D'abord Tara Expédition sur le plancton a fait exploser les chiffres en découvrant des espèces nouvelles dans le plancton.
1,5 million d'espèces ont été nouvellement découvertes.
Exactement, virus, des gènes nouveaux. Les écosystèmes profonds sont très prometteurs évidemment d'espèces nouvelles et puis le monde aussi du parasitisme qui fait découvrir de nouvelles formes.
Et c'est vrai que pour rester sur quelques chiffres, allez, on va pas en abuser, mais quand même, là, c'est révélateur. Vous précisez dans votre livre, Catherine Vadon, qu'il y a dénombré donc jusqu'à 10 milliards de bactéries et 100 milliards de minuscules virus dans un litre d'eau de mer.
C'est inimaginable. Tara Expédition a découvert que l'Arctique était en fait un gros réservoir aussi de bactéries et de virus. Et les expéditions qui ont lieu aujourd'hui, je pense à la planète revisitée, organisée par le Muséum National d'Histoire Naturelle, découvrent des nouvelles formes, des nouvelles espèces. Vraiment, c'est une découverte qui est vraiment en marche.
Est-ce qu'il y a peut-être un ou deux lieux que vous avez envie de partager avec nous aujourd'hui dans cette escale verte ? On ne pourra pas tous les mentionner, bien sûr, mais on laissera les auditeurs découvrir votre livre.
Je pense en particulier à la zone crépusculaire de l'océan. Là, on est entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Et là, on a très peu de lumière qui filtre, donc on n'a plus de végétaux, la nourriture se raréfie. Et là, on a des animaux extraordinaires. Presque tous émettent de la lumière, c'est la bioluminescence. Et pour communiquer, pour trouver leur nourriture, ou pour effrayer un prédateur, mais ils éclairent, mais de mille façons possibles, avec des feux, des feux de détresse, comme les warnings d'une voiture. Enfin, c'est en plus magnifique, c'est très très beau. Voilà, et puis il y a des petits animaux qui font des migrations, en fait. En fait, tous les jours, entre le jour et la nuit, entre ces profondeurs-là de quelques centaines de mètres et la surface, pour se nourrir et pour échapper aux prédateurs à la fois.
Et oui, parce que ce sont des adaptations aussi, et notamment à ces conditions extrêmes qui intéressent les hommes.
Exactement, et particulièrement dans les grands fonds et auprès de ces sources hydrothermales, effectivement, on a ce qu'on appelle les microbes de l'enfer, des bactéries, des archées qui arrivent, mais à bien vivre à 90 degrés Celsius. D'abord, ça intéresse aussi les astrobiologistes qui se disent mais que dans ces sources hydrothermales ou ces écosystèmes profonds, comme la Cité perdue, en particulier dans l'Atlantique, eh bien, il y a des bactéries qui vivent donc dans des conditions extrêmes. Et peut-être que sur certaines planètes, eh bien, on pourrait retrouver des écosystèmes similaires et peut-être retrouver de la vie. Et donc là, ça devient vraiment très intriguant. Et la question aussi pour ces astrobiologistes, c'est de dire, mais sous quelle forme va-t-on découvrir la vie ?
Alors, vous nous avez parlé de cet océan crépusculaire. En tant qu'adepte de la plongée sous-marine, quel est l'endroit que vous investissez avec bonheur ?
Bien sûr, les récifs coralliens, qui sont vraiment une source d'émerveillement quand ils sont, évidemment, bien sûr, en bonne santé. Ça, c'est vraiment un problème très préoccupant. Mais il est vrai que quand ils sont en bonne santé, c'est vraiment je veux dire, un rassemblement d'espèces, de vie, de stratégies pour vivre, survivre, se reproduire, tout à fait extraordinaire.
Et donc, vous parlez aussi de ceux qui sont en mauvaise santé, parce que, ben, bien sûr, hein, cet océan subit le réchauffement climatique. Quelles sont peut-être les traces les plus importantes que vous avez pu relever? Parce qu'à la fois, il peut y avoir de la détérioration et même des extinctions d'espèces, mais il peut y avoir aussi des adaptations qui, là aussi, aident les hommes à comprendre comment ces écosystèmes s'adaptent.
Bien sûr, tous ces phénomènes de changement global, je dirais, sont suivis de très très près, bien sûr, au niveau des pollutions. On a malheureusement trouvé des polluants dans la chair de certains poissons des grandes profondeurs. Bien sûr, puisque toute cette vie profonde, en fait, dépend de la surface, dans la mesure où ils se nourrissent de ce qu'on appelle la neige marine, c'est-à-dire une espèce de substrat un peu neigeux qui descend lentement de la surface. Évidemment, quand si certains polluants sont attachés à cette neige marine, évidemment, les grands fonds en subissent les conséquences. Alors après, bien sûr, il y a le phénomène de blanchiment des coraux, des récifs coralliens, et les coraux vivent en symbiose avec une petite algue microscopique qu'on appelle les zooxanthelles. Et quand le stress est là, quand les polluants sont là, quand la température augmente, eh bien, les zooxanthelles sont éjectées en fait du corail et le corail meurt. Voilà. Alors, je dirais que on a un petit peu le discours en ce moment. On entend un petit peu, il faut protéger l'océan, il faut protéger. Évidemment, bien sûr, et à 300%. Mais il faut aussi bien le connaître et je dirais bien savoir de quoi on parle. Alors, comment le protéger et qui protéger? Et ce livre est justement destiné à mieux faire connaître les espèces, aller au devant d'elles, mieux les comprendre, mieux les connaître, et là on aura forcément envie de les protéger. Quand vous êtes en plongée sous-marine, que vous croisez le regard d'une tortue marine ou d'un lamantin, mais vous vous dites, mais c'est absolument impossible que ces organismes disparaissent.
Et alors votre coin quand même sur le littoral français ?
Moi, je suis attachée au milieu, à la région de Nantes, à la presqu'île de Guérande, et qui est un littoral qui est vraiment extrêmement riche, avec une mosaïque de toutes sortes d'environnements, rocheux, sableux, de marais salants, marais salés. Et voilà, c'est vrai que personnellement, j'ai un...
C'est là-bas que vous allez plonger.
Les eaux sont plus fraîches.
Oui, mais enfin, avec une bonne combinaison, ça marche bien quand même. Votre prochaine destination, peut-être, dans cet océan?
Alors, les Antilles.
Donc en mission pour le muséum, c'est ça?
Personnellement, cette fois-ci.
Merci à vous, Catherine Vadon. Je rappelle le titre de votre livre, Océan sauvage, livre paru chez Glénat avec de superbes illustrations de l'agence Biophoto. Et puis j'en profite aussi pour vous conseiller un très beau film canadien qui sort enfin en France au cinéma, mercredi prochain, Anthropocène, l'époque humaine. C'est le titre de ce film qui montre l'empreinte des hommes sur la planète et sur le réchauffement climatique, avec des images étonnantes et parlantes tournées autour du monde. Une belle réalisation à découvrir en salle. Et comme toujours, vous pouvez retrouver les informations, les liens sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, sur le site de nos partenaires de la coalition hashtag Sauver le présent, Le Parisien, Combini et Ouzbek Erika. Téléchargement, réécoute à loisir, vous pouvez nous suivre sur Twitter, la page Facebook, tout est pour vous. Dimanche prochain, juste avant l'ouverture de la COP25 à Madrid, c'est sous justement la présidence du Chili que cette COP va s'ouvrir. Et bien, nous allons nous pencher sur ce pays d'Amérique latine présenté comme un Eldorado des énergies vertes et sur sa politique environnementale. Et dans un instant, vous restez bien à l'écoute de France Culture. À suivre, Être et Savoir et Louise Touré.